Chapitre 3e. Préparatif de procession. Donc je suis revenu à Sriragam, et c'est la nuit, contre les murs du grand temple de Vishnu. C'est dans l'enceinte sacrée où les Brahmes seuls demeurent, et c'est en un point de l'avenue large qui fait le tour du sanctuaire. Le char du dieu est là, qui attend au clair de lune, surmonté d'une sorte de dais ou de donjon fantastique étincelant d'or rouge, d'or vert, d'or pâle, avec un toit très orné imitant les tours des temples. La base de tout cela, le char proprement dit, vieux comme l'Inde brahmanique, est un amas lourd et terrible de poutres sculptées qui semblent trop énormes pour jamais être mis en mouvement. Mais l'édifice doré, l'extravagant donjon qui brille, a été posé aujourd'hui même, et c'est une chose toute légère, en soie, en clinquant, en papier sur des carcasses de bambou, donnant l'illusion du relief et de la magnificence. La lune éclaire aussi des groupes blancs dont le char est entouré, indiens qui la nuit ne manquent jamais d'envelopper leurs torses et leurs têtes dans des voiles de mousseline et prennent des airs de fantômes. Maintenant, comme si ces lueurs de lune ne suffisaient pas, on apporte en plus des torches, car on va travailler à mettre au char les roues qui lui permettent une fois l'an de se mouvoir à la façon d'une monstrueuse tortue. Or, elles dépassent de moitié les tailles humaines, ces roues du char, et ce sont des disques pleins, faits de deux couches de madrier qui se contrarient, boulonnés de fer. Et on élonge déjà sur le sol les câbles de procession, gros comme des jambes de Brahme, où 300 ou 400 hommes délirants s'attelleront demain pour ébranler la gigantesque machine. À cette heure, le temple, tout un monde de pierre, est vide, envahi par la nuit, effrayant de sonorité et de silence. Seulement quelques brahmes des environs venus pour la fête et qui y ont cherché asile dorment étendus sur les dalles, enveloppés de leurs mousselines blanches comme des morts. De loin en loin, de vagues lampes suspendues, alternant avec des rayons de lune, font paraître plus infini le peuple des idoles et la forêt des colonnes. L'avenue dans laquelle demain, au lever du jour, le char se promènera, contourne sur ses quatre faces le farouche rempart crénelé du sanctuaire. Elle passe, vaste et droite, entre ce mur de forteresse et les vieilles maisons des Brahmes, si compliquées de colonnettes, de vérandas, de perrons que gardent des monstres de granit. Elle est animée, car cette nuit presque personne ici ne dormira. On y voit circuler ces groupes blancs que détaille avec tant de netteté la grande lune spectrale. Et les tours de Vishnu dominent toute chose, pyramides de dieux et de bêtes qui montent en plein ciel, colossales, encombrantes et noires. Des femmes, des jeunes filles de noble caste commencent à sortir de chez elles, à s'agiter devant les seuils des portes pour faire la toilette de ce vénérable sol que le char de Vishnu va demain labourer, déchiré d'ornières profondes. Habituellement, on ne les trace que le matin, les bariolages blancs sur la terre rouge, mais le char doit passer dès l'aube. D'ailleurs, la nuit est si claire. Avec cette lune, on y voit comme en plein jour. Ils ont tant de colliers de jasmin, ces femmes, ces jeunes filles, tant de fleurs enfilées en guirlandes se balancent sur leur gorge, que tout leur mouvement semble remuer des encensoirs. En voici une, toute jeune et svelte, dans des mousselines noires et argent, et si jolie que sans l'avoir voulu, on s'arrête devant elle. Chaque fois qu'elle se baisse vers la terre, chaque fois qu'elle se relève, on entend le cliquetis des anneaux précieux à ses chevilles et à ses bras. Le dessin qu'elle trace sur le sol et qu'elle invente à mesure paraît d'une fantaisie charmante. Donc, mon guide de ce soir, qui est aussi un homme de caste noble, un Vélana, ose lui parler et de ma part lui demande de me prêter un moment la cendre blanche, afin que j'aie travaillé aussi à orner la terre devant sa demeure. Elle sourit et avec hésitation lui remet pour moi le petit sablier, dédaignant toutefois de frôler directement ma main, et des fantômes blancs qui passaient m'entourent, intrigués de ce que je vais faire, anxieux du dessin qui va sortir d'entre mes doigts. Très nettement, sur le sol rouge sombre, j'inscris le monogramme de Vishnu. Alors c'est un murmure de surprise et de sympathie, et la petite beauté indienne veut bien reprendre de mes propres mains son sablier, consent même à me faire part de ses projets. Il y aura une bordure de rosaces et d'étoiles, et au centre de chacune, des fleurs d'hibiscus seront piquées. Cependant, c'est assez, presque trop, pour qu'elle ne garde pas de moi le souvenir d'un indiscret, et qu'au moins j'obtienne un gentil regard d'adieu. Je sens que la minute précise est venue où il faut que je me retire. Là-bas, vers le char doré du dieu, dont le sommet resplendit, tous les groupes blancs se sont rassemblés. Bientôt minuit. une chose mystérieuse va s'accomplir que mes yeux ne doivent pas voir. Pour plus de solennité et de pompe, les grands éléphants sacrés, dont l'un a 100 ans, ont été amenés près du char, et vêtus de leur robe d'apparat toute brodée d'or, ils se dandinent sous la lune comme des monstres mous. On a ouvert en pleine nuit de larges parasols, terminés par des sphères de cuivre. Et une théorie de John Zephèb Brahme arrive avec des torches à 3 lumières, à 3 branches, imitant la fourche de Vishnu. La chose mystérieuse qui va s'accomplir, la voici. Tout au fond du temple, dans la partie secrète, on ira prendre le symbole le plus sacré, celui qui ne doit pas être vu, le vrai et l'unique Vishnu de Sri Ragam, tout en or pur, couché sur le serpent à 5 têtes, et on le déposera en face du char, sur une plateforme, dans un kiosque antique construit là tout exprès. Des prêtres et des lampes veilleront à ses pieds, et demain matin, au moment de la procession, il n'y aura plus qu'à le faire passer par une fenêtre pour l'asseoir sur son char, sous le dais semblable à une tour qui le gardera invisible. Chaque fois qu'il traverse l'avenue pour se rendre dans le kiosque, il est très enveloppé de draperies, cela va sans dire, le grand Vishnu de Sri Ragam. Mais c'est égal, le transfert a toujours lieu de nuit, afin que les regards non initiés ne puissent rien surprendre de sa forme. Et la fête, cette année, coïncidant avec le plein de la lune, on m'avertit que je dois m'éloigner, moi, le seul profane ici, car il fait vraiment trop clair. Dans le temple, mais très loin des allées de pierre que le dieu va traverser, je me couche donc, comme les brames de passage, pour attendre le lever du jour. Là, c'est un calme immense, c'est presque une fraîcheur, reposante bien qu'un peu sépulcrale, et je m'endors, entendant un murmure de prière à peine articulé sous la sonorité des voûtes. Parfois aussi, des pas à demi silencieux, des pieds nus qui se promènent avec discrétion sur les dalles.